Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans Histoire de l'Écosse des origines à nos jours ». Michel Duchin propose une vaste synthèse historique consacrée à une nation dont l'intégration au Royaume-Uni n'a jamais effacé la singularité politique, culturelle et sociale. Publié chez Talendier, dans une édition de poche de près de 800 pages. L'ouvrage relève de l'histoire générale, il suit la trajectoire écossaise depuis les peuplements anciens et les marges de la Bretagne romaine jusqu'aux enjeux contemporains. Son propos central consiste à expliquer pourquoi l'Écosse ne peut être réduite à une simple extension septentrionale de l'Angleterre. Duchin relie pour cela la géographie, les héritages celtiques et pictes, les dynasties, les conflits avec Londres, les transformations religieuses et les évolutions économiques. Historien spécialiste de l'histoire britannique, il privilégie une narration documentée et chronologique, attentive aux institutions autant qu'aux affrontements militaires. Le livre vise ainsi à restituer la continuité, mais aussi les ruptures, d'une histoire nationale marquée par la résistance, l'union politique et la persistance d'une conscience écossaise. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une identité écossaise façonnée hors de l'orbite romaine. L'un des fils directeurs du livre est l'idée que la différence écossaise s'enracine très tôt dans une histoire distincte de celle de l'Angleterre. La conquête romaine a durablement structuré le sud de la Bretagne, mais elle n'a jamais soumis l'ensemble du territoire correspondant à l'Écosse actuelle. Les fortifications romaines, notamment les murs d'Adrien et d'Antonin, illustrent à la fois l'ambition impériale et les limites de son contrôle vers le nord. Cette frontière n'est pas seulement militaire, elle favorise l'évolution de sociétés, de langues et de pouvoirs locaux qui ne suivent pas exactement les mêmes voies que les régions romanisées du sud. Duchin peut ainsi aborder les Pictes, les héritages celtiques et la formation progressive de royaumes concurrents sans présenter l'Écosse comme une nation déjà constituée dès l'Antiquité. L'intérêt de cette longue mise en perspective est d'éviter une vision anachronique de l'identité nationale. L'Écosse résulte d'agrégations, de conflits et de contacts entre populations diverses. Toutefois, la relative autonomie du nord de la Bretagne explique pourquoi l'intégration ultérieure dans un ensemble britannique ne fait pas disparaître ses institutions, ses traditions et son imaginaire collectif. Le livre montre donc que la différence avec l'Angleterre ne procède pas d'un seul épisode héroïque, mais d'une trajectoire historique profondément différenciée. Deuxièmement, les guerres d'indépendance et la construction politique du royaume, Duchin accorde une place structurante aux affrontements médiévaux avec l'Angleterre, car ils ont fourni à l'Écosse une part essentielle de son répertoire politique et mémoriel. Les figures de William Wallace et de Robert Bruce y apparaissent non comme de simples héros de légende, mais dans le contexte plus vaste des crises dynastiques, des rivalités nobiliaires et de la pression exercée par la monarchie anglaise. La bataille de Stirling Bridge en 1297, puis celle de Bannockburn en 314, sont importantes moins par leur seule portée militaire que par leur effet sur la possibilité d'un pouvoir écossais autonome. La déclaration d'Arbroath de 320 illustre, elle, l'effort des élites écossaises pour faire reconnaître cette autonomie sur la scène chrétienne et diplomatique européenne. Le récit rappelle aussi que l'indépendance médiévale n'est ni immédiate ni définitivement acquise, les conflits se prolongent, et les rapports de force restent instables avant les règlements du XIVe siècle. Cette approche permet de comprendre pourquoi ces événements occupent encore une place majeure dans la culture politique écossaise. Ils ont transformé une défense territoriale et dynastique en langage de souveraineté nationale. Duchin replace ainsi les batailles célèbres dans les mécanismes concrets de la légitimation royale, des alliances et de la négociation internationale. Troisièmement, dynastie. Alliance et union, comprendre le lien complexe avec l'Angleterre, l'ouvrage ne confond pas l'histoire de l'Écosse avec une opposition permanente et uniforme à l'Angleterre. Il examine au contraire les arrangements dynastiques et institutionnels qui ont rapproché les deux royaumes avant de les unir politiquement. Cette distinction est décisive, l'union des couronnes de 1603, lorsque Jacques VI d'Écosse devient également roi d'Angleterre, ne supprime pas les institutions écossaises. L'union de 1707, elle, crée le royaume de Grande-Bretagne et modifie bien plus profondément le cadre parlementaire. En suivant cette chronologie, Duchin aide à dépasser le raccourci selon lequel l'Écosse aurait été simplement annexée ou transformée en province anglaise. L'union résulte de négociations, de calculs géopolitiques, de contraintes économiques et de rapports de pouvoir inégaux, tout en laissant subsister des particularités juridiques, religieuses et éducatives importantes. Le rôle des alliances continentales, notamment les liens traditionnels avec la France, éclaire aussi le fait que les choix écossais se sont longtemps inscrits dans un espace européen. Cette analyse est utile pour comprendre les ambiguïtés durables de l'appartenance britannique. Une union étatique peut coexister avec des identités nationales distinctes. l'histoire institutionnelle devient alors une clé pour interpréter les débats contemporains sans les isoler artificiellement du passé. Quatrièmement, réforme protestante. Société et économie au-delà du récit des batailles, la portée de cette synthèse tient aussi à son refus de réduire l'histoire écossaise aux guerres et aux souverains. Duchin intègre les mutations religieuses, sociales et économiques qui expliquent la profondeur des changements politiques. Le protestantisme écossais, dans ses formes presbytériennes, constitue notamment un élément distinctif majeur par rapport à l'anglicanisme anglais. Il influence les rapports entre église, communauté locale, éducation et autorité politique. Il nourrit également des conflits internes, car la réforme n'est pas un processus homogène ni pacifique. Cette attention aux structures sociales évite de traiter l'identité écossaise comme un sentiment abstrait ou immuable. Elle se forme aussi dans des cadres concrets, propriétés foncières, hiérarchies locales, villes, échanges, industrialisation et transformation des Highlands. L'économie apparaît donc comme une dimension nécessaire pour comprendre à la fois les bénéfices et les tensions de l'intégration à l'espace britannique et impérial. Une telle perspective rend visible la pluralité des expériences écossaises, les intérêts d'une élite politique, d'un propriétaire rural, d'une communauté des Highlands ou d'un centre urbain ne se recouvrent pas automatiquement. Le livre ambitionne ainsi une histoire nationale complète, où les institutions et les croyances sont rapportées aux réalités matérielles. Cette amplitude explique sa valeur de référence, mais aussi sa densité pour un lecteur débutant. En dernier lieu, de l'histoire longue aux questions contemporaines de dévolution et d'autonomie, en menant son récit jusqu'à l'époque contemporaine. Duchin montre que la question écossaise ne disparaît pas avec l'Union de 1707. Elle change de forme, selon les périodes, les transformations économiques et les évolutions de la vie politique britannique, la permanence d'institutions particulières, d'une culture historique propre et d'une mémoire des souverainetés antérieures nourrit une revendication d'autonomie qui ne se réduit pas au nationalisme moderne. L'établissement d'un parlement écossais à la fin du XXe siècle constitue dans cette perspective un aboutissement institutionnel significatif de la dévolution, non une soudaine réapparition de l'histoire. L'intérêt du livre est de fournir les repères nécessaires pour ne pas interpréter les débats sur l'autonomie ou l'indépendance à travers les seuls événements récents. Duchin insiste sur les héritages de longue durée tout en rappelant implicitement que l'identité écossaise a toujours été traversée par des intérêts et des sensibilités variées. Cette prudence historique distingue une synthèse savante des récits purement militants ou touristiques. Le lecteur est invité à saisir la tension constitutive entre participation au Royaume-Uni et affirmation d'une personnalité nationale. En cela, le parcours contemporain prolonge les thèmes du livre, institutions, religion, économie, rapport avec l'Angleterre, plutôt qu'il ne les remplace. L'Écosse actuelle devient intelligible comme le produit d'une histoire cumulée et disputée. En conclusion, Histoire de l'Écosse des origines à nos jours s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite disposer d'un cadre solide et suivi pour comprendre l'ensemble du passé écossais. Il conviendra particulièrement aux étudiants, aux amateurs déjà familiers des essais historiques, aux voyageurs désireux de dépasser les images convenues des châteaux, des kills et des highlands, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par les nations constitutives du Royaume-Uni. Son bénéfice intellectuel principal est de relier des épisodes souvent connus isolément, résistance aux Romains, Wallace, Bruce, Réforme, Union, dévolution à des structures de longue durée, institutions, dynasties, croyances, économies et relations internationales. Le lecteur obtient ainsi une compréhension plus nuancée de la persistance d'une identité écossaise dans un cadre politique britannique, ce qui distingue le livre de nombreuses introductions consacrées à l'Écosse et son ambition de synthèse exhaustive et son souci de ne pas privilégier uniquement les légendes nationales ou les épisodes militaires. Duchin traite aussi les dimensions sociales, religieuses et économiques, tout en évitant de présenter l'histoire écossaise comme un récit univoque de résistance. Cette richesse a une contrepartie pratique, le volume est dense, la multiplicité des familles, titres et périodes peut exiger une lecture attentive. Et l'appareil de notes ou les cartes ne sont pas toujours les plus commodes à consulter. Ce n'est donc pas l'ouvrage le plus léger pour une première découverte. Mais pour qui accepte cette exigence, il offre une référence française substantielle, contextualisée et particulièrement utile pour replacer les débats écossais contemporains dans leur profondeur historique. Si vous souhaitez soutenir Michel Duchin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.